C'était chez Dame Virginie Scolastique. Les missionnaires ont quelquefois pour leurs néophytes de ces noms qui sont des trouvailles. 1 heure de la nuit, le cabaret était grand et sombre. Il était comme d'ordinaire les mauvais lieux, fermés par d'épaisses portes garnies de fer. Une petite lampe fétide éclairait un amas confus de choses qui grouillaient péniblement dans l'atmosphère épaissie. Des vestes rouges et des nudités de chair noire, des enlacements étranges. Sur les tables par terre, des verres brisés avec des bouteilles brisées, des bonnets rouges et des boules nègres traînant avec des sables de spahis dans les mares de bière et d'alcool. Dans le bouge, il régnait une température d'étuve, une chaleur à rendre fou, avec des fumées noires ou laiteuses, des odeurs d'absinthe, de musc, d'épices, de sous-marée et de sueur nègre. La fête avait dû être joyeuse et bruyante surtout. À présent, c'était fini, fini les chants et le tapage. C'était la période d'affaissement, l'abrutissement après boire. Les spahis étaient là, les uns l'œil morne, le front tombant sur la table, avec des sourires bêtes. D'autres, encore dignes, se raidissaient contre l'ivresse, relevant la tête quand même. De belles figures, très énergiques, dont l'œil était resté grave, avec je ne sais quelle expression de tristesse et d'écœurement. Parmi eux, pêle-mêle, répartis au hasard, il y avait toute la séquelle de Virginie Scolastique, des petites négresses de 12 ans, et aussi des petits garçons. Et au dehors, en prêtant l'oreille, on eut pu entendre dans le lointain le cri des chacals rôdant autour de ce cimetière de sorts, où plusieurs de ceux qui étaient là avaient leur place déjà marquée sous le sable. Dame Virginie, cuivrée, lipue, ses cheveux crépus dans un madras rouge, ivre elle aussi, épongeait du sang sur une tête blonde. Un grand spahis, à la figure jeune et rose, aux cheveux dorés comme les blés mûrs, était là, étendu sans connaissance, avec une fente à la tête, et Dame Virginie, aidée d'une gotton noire, plus ivre qu'elle encore, épongeait avec de l'eau fraîche et les compresses vinaigrées. Ce n'était pas par sensibilité au nom, mais par crainte de la police. Elle était vraiment inquiète, Virginie Scolastique. Le sang coulait toujours, il avait rempli tout un plat, il ne s'arrêtait pas. Et la peur la dégrisait, la vieille. Jean était assis dans un coin, le plus ivre de tous, mais raide sur son banc, l'œil fixe et vitré. C'était lui qui avait fait cette blessure avec un loquet de fer arraché, crispé à une porte, et il tenait encore ce loquet dans sa main, crispée et inconsciente du coup qu'elle avait porté. Depuis un mois qu'il était guéri, on le voyait chaque soir, traîné dans les bouges, au premier rang des débraillés et des ivres, s'essayant à de grands airs cyniques et débauchés. Il y avait encore beaucoup d'enfantillage dans son cas, mais c'est égal, il avait parcouru un chemin terrible depuis ce mois de souffrance. Il avait dévoré des romans où tout était nouveau pour son imagination, et il s'en était assimilé les extravagances malsaines. Et puis il avait parcouru le cercle des conquêtes faciles de Saint-Louis, mulâtresse ou blanche, dont la beauté lui avait assuré la possession sans résistance. Et puis surtout, il s'était mis à boire. Oh, vous qui vivez de la vie régulière de la famille, assis paisiblement chaque jour au foyer, ne jugez jamais les marins, les spahis, ce que leur destinée a jeté avec des natures ardentes, dans des conditions d'existence anormales, sur la grande mer ou dans les lointains pays du soleil, au milieu de privations inouïes, de convoitises, d'influences que vous ignorez. Ne jugez pas ces exilés ou ces errants dont les souffrances, les joies, les impressions tourmentées vous sont inconnues. Donc Jean s'était mis à boire et il buvait plus que les autres, il buvait effroyablement. Comment peut-il faire, disait-on autour de lui, lui qui n'en a pas l'habitude? C'était justement parce qu'il n'en avait pas l'habitude que sa tête était plus forte et que pour le moment il pouvait absorber davantage. Et cela le posait bien aux yeux de ses camarades. Par exemple, il était resté presque chaste, le pauvre Jean, malgré ses airs débraillés de grand enfant sauvage. Il n'avait pu se faire à l'ignoble prostitution noire. Et quand les pensionnaires de Dame Virginie égaraient leurs mains sur lui, il les écartait du bout de sa cravache comme des animaux immondes. Et les malheureuses petites créatures le considéraient comme une sorte d'homme fétiche dont elles n'approchaient plus. Mais il était méchant quand il avait bu, il était terrible avec sa tête perdue et sa grande force physique déchaînée. Il avait frappé tout à l'heure pour une phrase moqueuse jetée au hasard sur ses amours, et puis il ne s'en souvenait plus et il restait là immobile, le regard atone, tenant toujours en main son loquet de porte sanglant. Tout à coup, son œil jeta un éclair. C'était à la vieille qu'il en voulait maintenant. Sans motif connu, pris d'une rage insensée d'homme ivre, et il se levait à demi, furieux et menaçant. Elle poussa un cri rauque, la vieille, elle eut une minute d'épouvante horrible. « Tenez-le » gémit-elle aux êtres inertes qui dormaient déjà sous les tables. Quelques têtes se soulevèrent, des mains molles, sans force, essayèrent de retenir Jean par sa veste. Le secours n'était pas efficace. « À boire, vieille sorcière » disait-il, « à boire, vieux diable de nuit, horreur de vieille, à boire !»« Oui, oui, » répondit-elle de sa voix étranglée par la peur. « Oui, oui, c'est cela, à boire. » « Sam, vide de l'absinthe, pour le finir, de l'absinthe coupée d'eau de vie !» Elle ne regardait pas la dépense dans ces cas-là, Dame Virginie. Jean but d'un trait, lança son verre au mur et retomba comme foudroyé. Il était fini, réussi, comme disait la vieille. Il était plus dangereux. Elle était forte, la vieille scolastique, solidement charpentée, et puis tout à fait dégrisée. Avec l'aide de sa goton noire et de ses petites filles, elle enleva Jean comme une masse inerte, et puis, après avoir fait une visite rapide de ses poches pour enlever les dernières pièces de monnaie qu'elle pouvait contenir, elle ouvrit la porte et le jeta dehors. Jean tomba comme un cadavre, les bras étendus, la figure dans le sable, et la vieille, vomissant un torrent d'injures monstrueuses, d'ordures sauvages, tira sa porte qui se referma lourdement avec un grand bruit de fer. Le calme se fit, le vent partait du cimetière et dans le grand silence du milieu de la nuit, on entendait distinctement la note aiguë des chacals, le concert sinistre des déterreurs de mort. Lettre de François Peyral à son fils. Mon cher fils, nous ne recevons pas de réponse à notre lettre et Peyral dit qu'il commence à être bien temps qu'il nous arrive quelque chose. Je vois qu'il pâlit beaucoup chaque fois que Toinon passe avec sa boîte et qui lui dit comme ça qu'il n'y a rien pour nous. Moi aussi, je m'en fais bien du souci, mais je crois toujours que le bon Dieu garde mon cher garçon, comme je lui demande tant, et qu'il ne peut point lui arriver mal, ni rien, par mauvaise conduite ni punition. Oh, si c'était ça, je serais trop malheureuse. Ton père te fait dire qu'il lui passe des idées en tête de ce qu'il a été lui aussi autrefois dans l'armée, Et quand il était en garnison, il disait qu'il en a vu de rude pour les jeunes gens qui ne sont pas bien raisonnables, par rapport à des camarades qui les entraînent à la boisson et à de méchantes femmes qui se tiennent là, exprès, pour les faire tomber dans le mal. Je te dis ça pour lui faire plaisir, mais moi, je sais que mon cher garçon est sage et qu'il a des idées dans le cœur qui l'éloigneront pour sûr de toutes ces vilaines choses. Le mois prochain, nous t'enverrons encore un peu d'argent. Je pense que là-bas, il faut que tu payes bien tes petites choses. Je sais bien que tu dépenses point inutilement quand tu penses à la peine que prend ton père. Quant à moi, la peine des femmes me prend grand-chose, et je parle pour lui, le cher homme. On cause toujours de toi à la veillée et au noir. On se passe guère de soirée sans causer de notre genre. Tous les voisins te disent un grand bonjour. Mon cher fils, ton père et moi, nous t'embrassons du cœur. Que le bon Dieu te garde. Ta mère, François Spéral. Je fus dans la prison du quartier où il était enfermé pour ivresse et s'être fait rapporter par la garde que Jean reçut cette lettre. Par bonheur, la blessure du spahi à cheveux blonds n'était pas trop grave et ni le blessé ni ses camarades n'avaient voulu dénoncer Peyral. Jean, les vêtements maculés et pleins de sang, la chemise en lambeaux, avait encore dans la tête les fumées d'alcool. Il lui passait des brumes devant les yeux et à peine il pouvait lire. Et puis il y avait maintenant un voile épais sur ses affections d'enfance et de famille. Ce voile, c'était Cora, son désespoir et ses passions. Cela arrive ainsi à certaines périodes d'éblouissement et de vertige, et puis le voile se dissipe et on en revient tout doucement à ce que l'on avait aimé. Malgré cela, cette pauvre lettre, si confiante, n'eut pas de peine à trouver le chemin de son cœur. Il la baisa pieusement et se mit à pleurer. Et puis il se jura de ne plus boire. Et comme l'habitude n'était pas invétérée, il put strictement se tenir à lui-même sa promesse. Jamais il ne se grisa plus. À quelques jours de là, une circonstance imprévue vint apporter dans la vie de Jean une diversion heureuse et nécessaire. L'ordre fut donné aux spahis d'aller s'établir, bêtes et gens, pour changer d'air, au campement de Dialamban, à plusieurs milles dans le sud de Saint-Louis, près de l'embouchure du fleuve. Le jour du départ, Fatou Gueye vint au quartier avec son beau pagne bleu faire une visite d'adieu à son ami, qu'il embrassa pour la première fois sur ses deux petites joues noires, et à la tombée de la nuit, les spahis se mirent en marche. Quant à Cora, les premiers moments de surexcitation et de dépit passés, elle regretta ses amants. À la vérité, elle les aimait tous les deux gens. Ils parlaient également à ses sens. Traitée comme une divinité par le spahi, cela la changeait d'être traitée par l'autre comme ce qu'elle était, comme une fille. Personne encore ne lui avait témoigné un mépris aussi calme, aussi complet. Cette nouveauté lui plaisait. Mais on ne la vit plus à Saint-Louis promener ses longues traînes sur le sable. Un jour, elle partit en sourdine, expédiée par son mari, sur le conseil de l'autorité pour un des comptoirs les plus éloignés du sud. Fatou Gueye avait parlé sans doute, et à Saint-Louis, on s'était ému du dernier scandale de cette femme. Une nuit calme de la fin de février, vraie nuit d'hiver, calme et froide après une journée brûlante. La colonne des spahis, en route pour Dialamban, traverse au pas les plaines de l'Egbar. La débandade est permise au goût et à la fantaisie de chacun, et Jean, qui s'est attardé à l'extrême arrière, chemine tranquillement en compagnie de son ami Niaor. Le Sahara et le Soudan ont de ces nuits froides qui ont la splendeur claire de nos nuits d'hiver avec plus de transparence et de lumière. Un silence de mort règne sur tout le pays. Le ciel est d'un bleu vert, sombre, profond, étoilé à l'infini. La lune éclaire comme le plein jour et dessine les objets avec une étonnante netteté dans des teintes roses. Au loin, à perte de vue, des marécages couverts de la triste végétation des palétuviers. Ainsi dès tout ce pays d'Afrique, depuis la rive gauche du fleuve jusqu'aux confins inaccessibles de la Guinée. Sirius se lève, la lune est au zénith, le silence fait peur. Sur le sable rose s'élèvent les grandes formes bleuâtres. Leur ombre est courte et dure. La lune découpe les moindres ombres des plantes avec une netteté figée et glaciale, pleine d'immobilité et de mystère. Des brousses par-ci, par-là, des fouillis obscurs, de grandes taches sombres sur le fond lumineux et rosé des sables, et puis des nappes d'eau croupissantes avec des vapeurs qui planent au-dessus comme des fumées blanches, des miasmes de fièvre, plus délétères et plus subtils que ceux du jour. On éprouve une pénétrante sensation de froid, étrange après la chaleur de la journée. L'air humide est tout imprégné de l'odeur des grands marais. Çà et là, le long du chemin, de grands squelettes contournés par la douleur, des cadavres de chameaux baignant dans un jus noir et fétide. Ils sont là, en pleine lumière, riant à la lune, étalant avec impudence leurs flancs déchiquetés par les vautours, leur éventrement hideux. De temps à autre, un cri d'oiseau de marais au milieu du calme immense. De loin en loin, un baobab étend dans l'air immobile ses branches massives comme un grand mât de report mort, un arbre de pierre, et la lune accuse avec une étonnante dureté de contour sa structure rigide de mastodonte, donnant à l'imagination l'impression de quelque chose d'inerte, de pétrifié et de froid. Au milieu de leurs branches polies sont posées des masses noires, toujours les vautours. De confiantes familles de vautours sont là, lourdement endormies. Elles laissent approcher Jean avec leur aplomb d'oiseaux fétiches. Et la lune jette sur leurs grandes ailes repliées des reflets bleus de luisants de métal. Et Jean s'étonne de voir pour la première fois tous les détails intimes de ce pays en pleine nuit. À 2 heures, un concert de cris comme ceux des chiens qui hurlent à la lune, mais quelque chose de plus fauve, de plus grinçant, de plus étrangement sinistre. Dans ces nuits de Saint-Louis, quand le vent venait du côté des cimetières, quelquefois Jean avait cru entendre de très loin des gémissements pareils. Mais ce soir, c'était là, tout près, dans la brousse, que se chantait ce concert lugubre des glapissements lamentables de chacals, mêlés à des miaulements suraigus et stridents d'hyènes. Une bataille entre deux bandes errantes en maraude pour les chameaux morts. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Jean au spahis noir. Pressentiment peut-être, mais une sorte d'horreur s'emparait de lui. C'était bien là, tout près, dans la brousse, et le timbre de ses voix lui faisait passer des frissons dans la chair et dresser les cheveux sur la tête. Mais ceux qui sont morts, répondit Niaor Fall, avec une pantomime expressive, ceux qui sont morts par terre, ces bêtes les cherchent pour les manger. Et pour dire « les manger », il faisait le simulacre de mordre son bras noir avec ses dents fines et blanches. Jean comprit et trembla. Depuis chaque fois qu'il entendait la nuit les concerts lugubres, il se rappelait cette explication si clairement donnée par la mimique de Niaor, et lui qui, en plein jour, n'avait pas peur de grand-chose, il frissonnait et se sentait glacé par une de ces terreurs vagues et sombres de montagnards superstitieux. Le bruit s'apaise, se perd dans l'éloignement. Il s'élève encore, plus voilé d'un autre point de l'horizon, puis il s'éteint et tout retombe dans le silence. Sur les eaux dormantes, les vapeurs blanches s'épaississent à l'approche du matin. On se sent pénétré, transi par l'humidité glacée des marais. Sensation étrange, dans ce pays il fait froid. La rosée tombe, la lune peu à peu s'abaisse à l'occident, se voile et s'éteint, la solitude serre le cœur. Et puis enfin, là-bas, à l'horizon, apparaissent des pointes de chaume, le village de Dialamban, où au petit jour, les Spahis doivent camper. Le pays était désert aux environs du campement de Dialamban. De grands marais d'eau morte qui n'en finissaient plus, ou bien de plaines de sable aride où croissaient des mimosas rabougris. Jean y faisait de longues promenades solitaires avec son fusil sur l'épaule, chassant ou rêvant, toujours ces vagues rêveries de montagnard. Il aimait aussi à remonter en pirogue les berges du fleuve aux eaux jaunes ou à s'enfoncer dans le dédale des marigots sénégalais. Des marais à perte de vue où dormaient des eaux chaudes et tranquilles, des rives où le sol traître était inaccessible aux pieds humains. Des aigrettes blanches s'y promenaient gravement au milieu de la verdure monotone des humides palétuviers. De gros lézards souffleurs y rampaient sur la vase. De gigantesques nénuphars, des lotus blancs ou roses, s'y épanouissaient au soleil tropical, pour le plus grand plaisir des yeux des caïmans et des aigles pêcheurs. Jean Peyral commençait presque à aimer ce pays. Le mois de mai était arrivé. Les Spahis pliaient gaiement bagage. Ils ramassaient avec ardeur leurs tentes et leurs fourniments. Ils allaient rentrer à Saint-Louis et reprendre possession de leur grande caserne blanche, réparée et repeinte à la chaux-vive, et retrouver tous leurs plaisirs, les mulâtresses et l'absinthe. Le mois de mai. Dans notre pays de France, le beau mois de la verdure et des fleurs. Mais dans les campagnes mornes de Dialamban, rien n'avait verdi. Arbres ou herbages, tout ce qui n'avait pas pied dans l'eau jaune des marais, restait flétri, desséché et sans vie. Depuis 6 mois, pas une goutte de pluie n'était tombée du ciel, et la terre avait affreusement soif. Pourtant, la température s'élevait, les grandes brises régulières du soir avaient cessé et la saison d'hivernage allait commencer, la saison des chaleurs lourdes et des pluies torrentielles, la saison que, chaque année, les Européens du Sénégal voient revenir avec frayeur parce qu'elle leur apporte la fièvre, l'anémie et, souvent, la mort. Cependant, il faut avoir habité le pays de la soif pour comprendre les délices de cette première pluie, le bonheur qu'on éprouve à se faire mouiller par les larges gouttes de cette première ondée d'orage. Oh, la première tornade ! Dans un ciel immobile plombé, une sorte de dôme sombre, un étrange signe du ciel monte de l'horizon. Cela monte, monte toujours, affectant des formes inusitées, effrayantes. On dirait d'abord l'éruption d'un volcan gigantesque, l'explosion de tout un monde. De grands arcs se dessinent dans le ciel, montent toujours, se superposent avec des contours nets, des masses opaques et lourdes. On dirait des voûtes de pierre près de s'effondrer sur le monde. Et tout cela s'éclaire par en dessous de lueurs métalliques, blêmes, verdâtres ou cuivrés, et montent toujours. Les artistes qui ont dépeint le déluge, les cataclysmes du monde primitif, n'ont pas imaginé d'aspect plus fantastique, de ciel aussi terrifiant. Et toujours, pas un souffle dans l'air, pas un frémissement dans la nature accablée. Puis tout à coup, une grande rafale terrible, un coup de fouet formidable, couche les arbres, les herbes, les oiseaux, fait tourbillonner les vautours affolés, renverse tout sur son passage. C'est la tornade qui se déchaîne, tout tremble et s'ébranle, la nature se tord sous la puissance effroyable du météore qui passe. Pendant 20 minutes environ, toutes les cataractes du ciel sont ouvertes sur la terre. Une pluie diluvienne rafraîchit le sol altéré d'Afrique, et le vent souffle avec furie, jonchant la terre de feuilles, de branches et de débris. Et puis, brusquement, tout s'apaise. C'est fini. Les dernières rafales chassent les derniers nuages aux teintes de cuivre, balaient les derniers lambeaux déchiquetés du cataclysme. Le météore est passé, et le ciel redevient pur, immobile et bleu. La première tornade surprit les spahis en route, et ce fut une débandade bruyante et joyeuse. Le village de Turukambe était là, sur le chemin. On y courut en désordre. Les femmes qui pilaient le mil, les enfants qui jouaient dans la brousse, les poules qui picoraient, les chiens qui dormaient au soleil, tous rentraient précipitamment, entassés sous les minces toits pointus. Et les cases, déjà trop étroites, envahies par les spahis qui marchent dans les calebasses, qui chavirent les couscous, les uns embrassant les petites filles, les autres mettant comme de grands enfants le nez dehors pour le plaisir de se faire mouiller, de sentir l'eau du ciel ruisseler sur leur tête chaude et cervelée, et les chevaux amarrés à la diable, hennissant, piaffant et ruant de peur, et les chiens jappants, et les chèvres, les moutons, tous les bestiaux du village se serrant aux portes, bêlant, sautant, poussant de la tête et des cornes pour entrer eux aussi et réclamer leur part de protection et d'abri. Un discordant tapage, des cris, des éclats de rire de négresse, le bruit sifflant du vent de la tempête et le tonnerre couvrant le tout de son artillerie formidable. Une grande confusion sous un ciel noir, l'obscurité en plein jour, déchirée par de rapides et fulgurantes lueurs vertes, et la pluie à torrents, le déluge dégringolant à plaisir, entrant par toutes les fentes du chaume desséché, jetant par-ci par-là une grande douche inattendue sur le dos d'un chat perché, d'une poule effarée ou sur la tête d'un spahi. Quand la tornade fut passée et l'ordre rétabli, on se remit en route par les sentiers détrempés. Dans le clair ciel bleu s'enfuyaient encore de derniers petits nuages bizarres qui semblaient des choses compactes, des lambeaux déchirés, tordus et papillotés de draperies brunes. De puissantes senteurs inconnues sortaient de la terre altérée au contact de ces premières gouttes d'eau. La nature allait commencer ses enfantements. À l'entrée de Saint-Louis, Fatou Gueye était posté depuis le matin pour ne pas manquer l'arrivée de la colonne. Quand elle vit Jean passer, elle le salua d'un kéou discret, accompagné d'une petite révérence très comme il faut. Elle ne voulut pas l'inquiéter davantage dans les rangs et eut le bon goût d'attendre 2 grandes heures pour venir lui présenter ses compliments au quartier. Fatou avait beaucoup changé. En 3 mois, elle avait grandi et s'était développée tout d'un coup, comme font les plantes de son pays. Elle ne demandait plus de sous. Elle avait même acquis une certaine grâce de timidité qui sentait la jeune fille. Un boubou de mousseline blanche couvrait maintenant sa poitrine arrondie, comme cela est d'usage pour les petites filles qui deviennent nubiles. Elle sentait très bon le musc et le sous-marin. Plus de petites querelles sur la tête. Elle laissait pousser ses cheveux qui allaient dans quelque temps être livrés aux mains habiles des coiffeuses pour devenir l'échafaudage compliqué qui doit surmonter la tête d'une femme africaine. Pour le moment, trop courts encore, ils s'épanouissaient en masses ébouriffées et crépues, et cela changeait absolument sa physionomie, qui, de gentille et comique, était devenue gracieuse et originale, presque charmante. Mélange de jeune fille, d'enfant et de diablotin noir, très bizarre, petite personne. « Elle est jolie, la petite, cette upérale, » disait en souriant l'Espahis. Jean s'en était bien aperçu qu'elle était jolie, mais pour le moment, cela lui était à peu près égal. Il essaya de reprendre tranquillement son train de vie d'autrefois, ses promenades à la plage et ses longues courses dans la campagne. Ces mois de calme et de rêverie qu'il venait de passer au campement lui avaient fait du bien. Il avait à peu près retrouvé son équilibre moral. L'image de ses vieux parents, de sa toute jeune fiancée l'attendant, confiante au village, avait repris sur lui tout leur charme honnête, tout leur empire. Il avait bien fini ses enfantillages et ses bravades. Et à présent, il ne s'expliquait plus comment Dame Virginie avait pu le compter parmi ses clients. Non seulement il s'était juré de ne plus boire d'absinthe, mais aussi de rester maintenant fidèle à sa fiancée jusqu'au bienheureux jour de leur mariage. L'air était chargé d'effluves lourds et brûlants, de senteurs vitales, de parfums de jeunes plantes. La nature se dépêchait d'accomplir ses enfantements prodigieux. Autrefois, Jean, au premier moment de son arrivée, avait jeté un même regard de dégoût sur cette population noire. À ses yeux, tout se ressemblait. C'était toujours pour lui le même masque simiesque, et sous ce poli d'ébène huilé, il n'eut pas su reconnaître un individu d'un autre. Peu à peu, pourtant, il s'était fait à ses visages. Maintenant, il les distinguait. En voyant passer les filles noires aux bracelets d'argent, il les comparait. Il trouvait celle-ci laide, celle-là jolie, celle-ci fine, celle-là bestiale. Les négresses avaient pour lui une physionomie, tout comme les femmes blanches, et lui répugnaient moins. Juin. Oh, c'était bien un printemps, mais un printemps de là-bas, rapide, enfiévré, avec des odeurs énervantes, des lourdeurs d'orage. C'était le retour des papillons, des oiseaux, de la vie. Les colibris avaient quitté leur robe grise pour reprendre leurs couleurs éclatantes de l'été. Tout verdissait comme par enchantement. Un peu d'ombre tiède et molle descendait maintenant des arbres feuillus sur le sol humide. Les mimosas, fleuris à profusion, ressemblaient à d'énormes bouquets, à de grosses houppes roses ou orangées, dans lesquelles le colibri chantait de leur toute petite voix douce, parie à la voix des hirondelles qui jaseraient en sourdine. Les lourds baobabs eux-mêmes avaient revêtu pour quelques jours un frais feuillage, d'un vert pâle et tendre. Dans la campagne, le sol s'était couvert de fleurs singulières, de graminées folles, d'atura aux larges calices odorants, et les ondées qui tombaient sur tout cela étaient chaudes et parfumées, et le soir, sur les hauts herbages nés de la veille, dansaient en rond les lucioles éphémères semblables à des étincelles de phosphore. Et la nature s'était tant hâtée d'enfanter tout cela qu'en 8 jours elle avait tout donné. Chaque soir, toujours, Jean rencontrait sur son chemin la petite Fatou avec sa tête ébouriffée de boutons noirs. Les cheveux poussaient vite comme les herbes et bientôt les coiffeuses habiles allaient pouvoir en tirer parti. On se mariait beaucoup à ce printemps. Souvent, le soir, pendant ces nuits énervantes de juin, Jean rencontrait de ces cortèges de noces qui s'en allaient, défilant sur le sable en longues processions fantastiques, et tout ce monde chantait, et le concert de toutes ces voix de fausset simiesques était accompagné à contre-temps par des battements de mains et des coups de tampon. Ces chants, cette gaieté nègre avaient quelque chose de lourdement voluptueux et de bestialement sensuel. Jean visitait souvent à Gwendar son ami Niaor, et ses scènes d'intérieur Yolof, de vie en commun, le troublaient aussi. Comme il se sentait seul, lui, isolé de ses semblables, sur cette terre maudite, il songeait à celle qu'il aimait d'un chaste amour d'enfance, à Jeanne Méry. Hélas, 6 mois seulement qu'il était en Afrique. Attendre encore plus de 4 années avant de la revoir. Il commençait à se dire que le courage lui manquerait peut-être pour continuer de vivre seul. Que bientôt, à toute force, il lui faudrait quelqu'un pour l'aider à passer son temps d'exil. Mais qui ? Fatouguet, peut-être ? Allons donc, quelle profanation de lui-même ! Et puis ressembler à ses camarades, les clients de la Vierge Virginie, violer comme eux des petites filles noires. Il avait une sorte de dignité, de pudeur instinctive, lui, qu'il avait préservé jusque-là de ses entraînements de sensualité pervertie. Non, jamais il ne pourrait descendre aussi bas. Il se promenait chaque jour, il marchait beaucoup. Les ondées d'orage continuaient à tomber. Les grands marais fétides, les eaux stagnantes saturées de miasmes de fièvre, gagnaient du terrain chaque jour. Une haute végétation herbacée couvrait maintenant ce pays de sable. Le soir, le soleil était comme pâli par un excès débilitant de chaleur et d'émanation délétère. Aux heures où se couchait ce soleil jaune, quand Jean se trouvait seul au milieu de ces marécages désolés où tout était neuf et étrange pour son imagination, une tristesse inexplicable s'emparait de lui. Il promenait ses regards tout autour du grand horizon plat sur lequel pesaient des vapeurs immobiles. Il ne comprenait pas bien ce qu'il y avait dans cette physionomie des choses, de morne et d'anormal, qui put lui serrer aussi le cœur. Au-dessus des graminées humides couraient des nuées de libellules aux grandes ailes tachées de noir, en même temps que des oiseaux, dont le chant lui était inconnu, s'appelaient plaintivement sous les hautes herbes. Et l'éternelle tristesse de la terre de Cham planait sur tout cela. À ces heures crépusculaires, ces marais d'Afrique au printemps avaient une tristesse qu'on ne saurait exprimer avec des mots d'aucune langue humaine. « Anamalis, Phobil !» hurlaient les griots en frappant sur leur tam-tam, l'œil enflammé, les muscles tendus, le torse ruisselant de sueur. Et tout le monde répétait en frappant des mains avec frénésie « Anamalis Phobil, Anamalis Phobil !» La traduction en brûlerait ses pages. « Anamalis Phobil, les premiers mots !» La dominante et le refrain d'un chant diablé, ivre d'ardeur et de licence, le chant des bamboulas du printemps. « Anamalis Phobil !» Hurlement de désir effréné. de sève noire surchauffée au soleil et d'hystérite horride. Alléluia d'amour nègre, hymne de séduction, chanté aussi par la nature, par l'air, par la terre, par les plantes, par les parfums. Au bamboula du printemps, les jeunes garçons se mêlaient aux jeunes filles qui venaient de prendre en grande pompe leur costume nubile, et sur un rythme fou, sur des notes enragées, ils chantaient tous en dansant sur le sable « Anamalisphobile, anamalisphobile, anamalisphobile ». Tous les gros bourgeons laiteux des baobabs s'étaient épanouis en feuilles tendres. Et Jean sentait que ce printemps nègre lui brûlait le sang, qu'il courait comme un poison dévorant dans ses veines. Le renouveau de toute cette vie l'énervait, lui, parce que cette vie n'était pas la sienne chez les hommes. Le sang qui bouillonnait était noir. Chez les plantes, la sève qui montait était empoisonnée. Les fleurs avaient des parfums dangereux et les bêtes étaient gonflées de venin. Et chez lui aussi, la sève montait, la sève de ses 22 ans, mais d'une manière fiévreuse qui en fatiguait la source. Et à la longue, il se sentait, se serait senti mourir de ce renouveau terrible. Anabalisphobile ! Comme ce printemps marchait vite, juin allait à peine finir et déjà, sous l'influence d'une chaleur mortelle, dans une atmosphère qui n'était plus viable, déjà les feuilles étaient jaunies, les plantes étaient mourantes et les graminées trop mûres retombaient sur le sol. Anabalisphobile. Il est de ces fruits âcres, amers, des pays chauds, les gourous du Sénégal par exemple, détestables sous nos latitudes pâles, mais qui sont appropriés là-bas à certains états de soif ou de souffrance que l'on peut convoiter avec ardeur et qui vous semblent étrangement exquis. Ainsi était cette petite créature avec sa tête ébouriffée de boutons noirs, le modelé de marbre de sa chair et ses yeux d'émail qui savaient déjà ce qu'il demandait de Jean et qui pourtant s'abaissait devant lui par un jeu enfantin de timidité et de pudeur. Fruits savoureux du Soudan, mûris hâtivement par le printemps tropical, gonflés de sucs toxiques, remplis de voluptés malsaines, enfiévrés, inconnus. Anabalisphobile. Jean avait fait à la hâte, un peu comme un fou, sa toilette du soir. Le matin, il avait dit à Fatou d'aller à la nuit tombante l'attendre au pied d'un certain baobab isolé dans les marais de Sor. Et puis, avant de s'en aller, il s'était accoudé, la tête fort troublée, à l'une des grandes fenêtres de la caserne, pour réfléchir encore un moment, réfléchir si possible en respirant un peu d'air moins lourd. Il tremblait de ce qu'il allait faire. S'il avait résisté quelques jours, c'était par suite des sentiments très compliqués qu'il eut en lui-même. Une sorte d'horreur instinctive se mêlait encore à l'entraînement terrible de ses sens. Et puis il y avait de la superstition un peu aussi, superstition d'enfant montagnard, vague frayeur de sorts et d'amulettes, crainte de je ne sais quels enchantements, quels liens ténébreux. Il lui semblait qu'il allait franchir un seuil fatal, signer avec cette race noire une sorte de pacte funeste, que des voiles plus sombres allaient descendre entre lui et sa mère et sa fiancée, et tout ce qu'il avait laissé là-bas de regretté et de chéri. Un chaud crépuscule tombait sur le fleuve. La vieille ville blanche devenait rose dans ses lumières et bleue dans ses ombres. De longues files de chameaux cheminaient dans la plaine, prenant au nord la route du désert. On entendait déjà le tam-tam des griots et le chant des désirs effrénés qui commençait dans le lointain. Anomalies phobiles, anomalies paramatai. L'œil fixé à Fatouillet était presque passé, et Jean partit en courant pour la rejoindre au marais de Sort. Anomalies phobiles, paramatai. Sur leur hyménée étrange, un baobab isolé jetait son ombre. Le ciel jaune étendait sa voûte immobile, morne, irrespirable, chargée d'électricité, d'émanations terrestres, de substances vitales. Il faudrait, pour peindre cette couche nuptiale, prendre des couleurs si chaudes qu'aucune palette n'en pourrait fournir de semblables. Prendre des mots africains, prendre des sons, des bruissements et surtout du silence. Prendre toutes les senteurs du Sénégal, prendre de l'orage et du feu sombre, de la transparence et de l'obscurité. Et pourtant, il n'y avait là qu'un baobab solitaire au milieu d'une grande plaine d'herbage. Et Jean, dans son délire d'ivresse, éprouvait encore une sorte d'intime horreur en voyant sur ce fond d'obscurité crépusculaire trancher le noir plus intense de l'épousée, en voyant là, tout près de ses yeux à lui, briller l'émail mouvant des yeux de Fatou. De grandes chauves-souris passaient au-dessus d'eux sans bruit, leur vol soyeux semblait un papillonnement rapide d'étoffes noires. Elle les approchait jusqu'à les effleurer. Leur curiosité de chauve-souris était très excitée, parce que Fatou avait un pagne blanc qui tranchait sur l'herbe rousse. « Anomalies phobiles, faramata hi !» Fin de la première partie.